ambiance de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech, en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 tas du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Femme engagée, notre invitée est à la fois artiste et entrepreneur. C'est Julien Hervouette, fondateur de iAdvise, qui l'a choisi comme 6 tas dans son 40 nuances de Next. Et c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui dans 40 nuances de Sista, Diariata NDI, fondatrice de l'association Résonante et de l'application Appel. Bonjour Diariata.
Bonjour.
Alors Diariata, avant de rentrer dans le cœur de tes aventures et de mieux te découvrir, moi j'aurais aimé savoir qui est d'après toi la plus engagée, l'artiste, l'entrepreneur ou la femme que tu es ?
Ben, je ne les dissocie pas en réalité, donc c'est la femme que je suis dans son ensemble en fait.
Alors je te propose qu'on rentre dans le cœur alors. Beach of a beach. Beach of a beach. Diariata, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'est Résonante et Appel ?
Alors Résonance, c'est une association qui est née en 2015 après avoir travaillé plus de 10 ans sur la question des violences sexistes et sexuelles. Je me suis lancée dans la création de cette asso parce que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une urgence à travailler cette thématique en direction des 15-24 ans en priorité. Et puis il était temps aussi de penser des outils concrets pour les victimes. Donc Résonante, c'est une association qui a deux axes de travail. Une partie de prévention, de sensibilisation des 15-24 ans avec des outils adaptés, concrets, nous-mêmes et qu'on utilise pour sensibiliser ces publics, que ça soit dans les établissements scolaires ou bien sur le net. Et puis le deuxième axe, c'est de créer des outils concrets pour les victimes de violences, et c'est dans ce cadre-là qu'on a créé la première application mobile destinée aux victimes de violences, aux témoins et aux proches de toutes ces personnes.
Et tu peux nous en dire un peu plus sur cette app ?
Alors l'idée de cette application, c'est de centraliser et de répondre à tous leurs besoins. Cette application permet d'enclencher des alertes lorsqu'on est en difficulté, de prévenir 3 personnes de confiance qui entendront en direct ce qui se passe et auront le suivi GPS en temps réel. Donc ces personnes de confiance, en comprenant la situation, peuvent venir en soutien à la victime, organiser les secours à sa place. Et cette alerte est automatiquement enregistrée. Elle va pouvoir être utilisée par la victime pour créer des preuves si elle souhaite déposer plainte ou simplement faire valoir ses droits.
Parce que c'est souvent ce qui manque en fait, le fait qu'on ne croit pas les victimes ou qu'il leur manque des preuves.
Ben, en général, quand on est victime de violence, c'est à nous de prouver qu'on est victime. Et avant même de parler de plainte ou de demander justice, on sait que beaucoup de femmes ont peur de ne pas être crues. Et d'avoir ces enregistrements vont permettre de donner un petit peu de courage et un petit peu de force en se disant « bon, allez, je vais en parler et puis si on ne me croit pas, j'ai aussi ces différents éléments ». Donc c'est aussi, avant tout, pour leur donner la force de dénoncer les violences qu'elles subissent avant même de penser à la justice. Et puis, justement, si elles demandent justice, qu'elles aient ces preuves, c'est quand même un avantage. Donc ça, c'est vraiment la partie alerte.
Ouais.
Et puis après, on a d'autres fonctionnalités qui permettent d'entrer en contact avec toutes les associations d'aide aux victimes qui sont présentes sur les différents territoires. On a référencé près de 9000 structures.
D'accord.
En France et à l'international. On a également une touche qui permet de trouver les structures physiques dans lesquelles on peut se rendre, que ce soit les hôpitaux, les gendarmeries, la police. Et l'idée, c'est de trouver des lieux physiques dans lesquels on peut être accompagné. Et puis, on a toute une partie d'information et de mise en relation directe avec toutes les plateformes, que ce soit des plateformes de chat pour échanger avec des personnes formées ou des professionnels. Enfin, vraiment, l'idée, c'était de centraliser tout ce qui pouvait leur être utile et de les mettre dans une application pour que ça soit simple, pour faciliter toutes leurs démarches et faciliter également toutes les démarches de toutes les personnes qui souhaitent agir en soutien à ces personnes et qui ne savent pas trop par quel chemin le faire.
Et justement, la période qu'on a vécue il y a bientôt un an, du confinement, l'app était déjà sortie en ligne. J'imagine qu'elle a pu aider.
Effectivement, nous, quand on développe Appel ou quand on pense les fonctionnalités d'Appel, on se dit que cette application doit être utilisée par les femmes qui sont dans les situations les plus compliquées. Mmh. On sait que celles qui sont vraiment dans les situations les plus graves n'ont même pas de téléphone. Donc on sait qu'on ne les touche pas. Et d'ailleurs, c'est un projet sur lequel on travaille actuellement pour pouvoir proposer une solution à ces femmes qui n'ont pas de téléphone. Mais vraiment, on s'est dit que cette application, elle doit pouvoir servir à toutes les femmes. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a pensé différents modes de déclenchement. Lorsque l'alerte est déclenchée, ça ne se voit pas du tout. Et effectivement, pendant le confinement, on sait que les violences ont augmenté parce que dans toutes les situations de crise, les violences augmentent. Oui. Et là, c'est vrai que c'est une période qui est assez stressante pour plein de raisons. Parce qu'il y a cette incertitude, parce que la crise sanitaire fait peur. Il y a beaucoup d'instabilité aussi. Les personnes ne savent pas si elles vont garder leur boulot ou pas. Enfin bref, il y a les tensions qui existaient déjà sont exacerbées. Mais il y a aussi des foyers dans lesquels il n'y avait pas de violence. Mais ce confinement, que ce soit la proximité ou le fait d'être enfermé ensemble avec ce stress, a créé de nouvelles situations de violence. Bref, pour faire simple, pendant le confinement, les femmes ont quand même pu utiliser cette appli. C'était plus facile d'utiliser Appel que d'appeler directement la police. Et donc, effectivement, on a vu une augmentation de l'utilisation de cette app. Et en réalité, on peut se dire, nous, on trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que de toute façon, on sait que ces violences existent. Donc, de se dire qu'il y a eu une augmentation de cette utilisation, ça sous-entend qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu appeler à l'aide ou trouver des solutions grâce à cet outil pendant cette période.
Et c'est quoi le rôle des pouvoirs publics ?
Leur rôle, c'est de s'occuper de tout ça. Ouais. Et en réalité, on sait aussi que c'est aussi par les associations comme les nôtres qui sommes sur le terrain, on a une meilleure vision peut-être de ce qui se passe ou de ce qu'il faudrait proposer. Donc le rôle des pouvoirs publics, aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est de nous soutenir financièrement. Mmh. Parce qu'on sait exactement ce qu'on fait et on sait exactement ce qu'il faut faire. Et c'est juste les moyens qui manquent. Et on sait que la question des violences, c'est quand même le plus petit budget de l'État. Donc quand on veut lutter contre un fléau, faut forcément mettre de l'argent, un peu comme ce qui s'est passé avec la sécurité routière. C'est-à-dire que ça a été un vrai engagement fort des pouvoirs publics de faire baisser ces chiffres. Et quand les moyens sont mis, ça fonctionne. On voit les résultats, exactement.
En préparant cette interview, je t'ai entendu dire que tu t'étais entourée pour développer cette app de personnes qui n'avaient pas forcément été victimes, voire des personnes peu sensibilisées à ce sujet. C'est important pour toi de sortir, entre guillemets, d'un vase clos pour penser ce produit ?
Alors, effectivement, je pense que c'est important de s'entourer de toutes les bonnes volontés et qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la question des violences pour s'engager sur ces sujets. Et je pense qu'il faut détendre un peu les gens là-dessus. Moi, je suis convaincue que tous nos savoir-faire peuvent être mis à disposition de la lutte contre les violences, que ce soit le graphisme, que ce soit le théâtre, que ce soit, enfin, il y a plein de choses à faire. Et en réalité, de ne pas connaître la question des violences, ça n'empêche pas de travailler ces sujets à condition d'avoir quand même des spécialistes. Et avec Appel, finalement, c'était moi la spécialiste. Mmh. Et donc, d'avoir quelqu'un qui connaît la problématique, ça évite aussi de faire des conneries. Parce que c'est bien beau aussi de vouloir lutter contre les violences, mais c'est un sujet qui est complexe, qui demande quand même... qui est très complexe. Et finalement, on ne peut pas laisser non plus n'importe qui faire n'importe quoi. Donc, c'est juste une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'on peut effectivement travailler avec des personnes qui n'y connaissent rien, à condition d'avoir ce garde-fou qui est, il faut au moins un ou une spécialiste.
Et toi, d'ailleurs, tu t'es formée auprès aussi de spécialistes et de médecins sur ce sujet ?
Effectivement, moi, je me suis formée sur le terrain. En réalité, ça fait pas très longtemps que j'assume le fait d'être spécialiste.
Oui.
Parce que pour moi, et comme pour beaucoup de personnes, il faut qu'il y ait un diplôme qui le dise, que tu es spécialiste de quelque chose. Et ça fait pas très longtemps que j'assume ce mot. Parce qu'en réalité, mon expérience de terrain et toutes les personnes qui m'ont appris, qui m'ont corrigé, qui m'ont accompagné sur ces thématiques, que ça soit, généralement, je l'appelle le duc du 9-3, c'est Ernestine René. C'est quand même la référence en France, une des références en France sur la question des violences. Moi, c'est elle qui m'a pris sous son aile et qui m'a formée. Et c'est vrai que rien que d'avoir eu la chance de la côtoyer, de travailler avec elle pendant toutes ces années, effectivement, je pouvais pas avoir meilleure formation. J'ai également travaillé avec Muriel Salmona, qui est elle aussi, qui est psychiatre, spécialiste de la mémoire traumatique. Et c'est la numéro un en France. Et je côtoyais, j'ai travaillé et j'ai été formée par toutes ces personnes sur le terrain. Et je me dis, je réalisais même pas en fait à quel point j'étais spécialiste. Et je doutais, j'ai beaucoup douté, même au moment de me lancer. Je me disais que c'était pas à moi de faire ça. Parce qu'il y a des personnes qui sont, elles justement,
diplômées,
spécialistes, professionnelles, et qui ne sont pas artistes engagées sur la question des violences. Mais enfin bref.
Et ça a été quoi le déclic alors?
Bah, j'ai pas trop eu le choix, en réalité. Moi, je l'ai vraiment, c'est-à-dire quand j'ai fondé Résonante et que j'ai créé cette application Appel, parce que c'est vraiment, tout est né en même temps.
Oui.
Je n'ai pas eu le choix, j'en avais marre d'attendre. Et il y avait vraiment cette urgence et je me suis dit, je peux pas continuer à travailler, avec toutes ces choses qui, moi aussi, me manquent pour être encore plus efficace dans mon travail.
Oui.
C'est-à-dire que, ça faisait déjà 10 ans, comme je le disais, que je travaillais sur la question des violences et que j'allais sensibiliser les jeunes sur le terrain. Et je me suis dit, mais je peux pas, j'ai pas le temps déjà d'aller faire tous les collèges et tous les lycées de France. Mon spectacle, une fois que c'est un spectacle vivant, donc une fois qu'il est terminé, ben c'est terminé. Alors même s'il y a l'album, il y a cette possibilité d'écouter les chansons, ben c'est pas pareil. Et je me suis dit, mais il faut transformer, il faut toucher un maximum de monde. Et puis surtout, tous les conseils, tous les échanges que j'ai avec le public, toutes les informations que je leur donne. Et parmi ces informations, c'est, mais il y a telle association, il y a tel numéro. Et je me suis dit, mais ces jeunes n'ont pas le temps de tout assimiler. Et puis, ils vont jamais retenir toutes ces infos. Donc déjà, faut les retrouver. Et avec Résonante, par exemple, en 2015, la première chose qu'on a mis en ligne, c'est un site internet destiné aux jeunes sur la question des violences. Et on se dit, c'était 2015. Enfin, c'est complètement fou, ça n'existait pas. Et le fait de faire un beau site, clair, visuel, pas glauque, parce que c'est super important, on est sur un sujet qui fait flipper déjà. Donc, il y a pas besoin de rajouter du gris, des larmes, des sons qui font peur, enfin voilà. Et donc, tout ça, la première chose qu'on a faite, c'est de créer un site internet avec les définitions, les conséquences que ça a, et puis les structures qu'on peut contacter. Et c'était... Déjà, je n'avais pas assez d'outils et c'était important de l'avoir. Et puis très rapidement, tu te dis, c'est bien beau d'être sur Internet, mais si tu veux être avec les gens, bah, il faut que tu sois vraiment dans leur poche, quoi, tant ouais. qu'à faire. Et c'est comme ça aussi qu'est venue l'idée de l'appli. Ça faisait longtemps que je me disais, mais si on pouvait leur transmettre toutes ces infos dans leur téléphone... Et enfin voilà, hein, qu'ils aient ça à portée de main, c'est quand même plus efficace, quoi. Donc, en réalité, c'était vraiment, je l'ai ressenti comme une urgence. Et c'est seulement après que j'ai réalisé qu'en réalité, bah, j'étais la seule à pouvoir penser ces outils-là et de cette façon-là. Parce qu'on n'était pas 50 000, et puis on n'est pas 50 000 encore aujourd'hui, à travailler avec ces publics et j'étais la plus expérimentée, en fait.
Et une question qui revient souvent, qui est pourquoi avoir choisi de monter une asso plutôt qu'une entreprise ?
Alors justement, pourquoi une asso ? Tout simplement parce que sur des sujets humains comme celui-ci, on ne peut pas considérer, pour moi, l'entreprise, elle a un marché à conquérir. On est OK ?
Ouais.
Et pour moi, les victimes de violence, c'est pas un marché à conquérir. Mmh. Et il est hors de question qu'elle s'imagine deux secondes qu'elles vont être considérées comme un marché.
Bien sûr.
Et c'est la raison pour laquelle je me suis orientée sur une association. Mais une association du futur quand même. C'est-à-dire que très rapidement, je me suis dit, OK, moi j'ai la chance d'avoir fondé cette asso en 2015. Et contrairement à la plupart des assos qui ont pris, mine de rien, ces habitudes d'avoir des financements publics, enfin, à un moment donné, dans l'associatif, c'était un peu la fête, quoi. Il y avait de l'argent, il y avait des financements. Et moi, dès le départ, je me suis dit, bon, OK, d'une, je veux pas dépendre des financements publics, parce que c'est juste impossible de se projeter en se disant que peut-être, j'aurai peut-être des financements. Mmh. C'est pas solide. Donc très rapidement, on a aussi pensé l'autofinancement de la structure.
Ouais.
Et en réalité, on peut aussi, en ayant une structure associative, penser autofinancement et penser prestations, mais il faut juste savoir s'adresser au bon portefeuille, j'ai envie de dire. Et aucun de nos outils, tous nos outils sont disponibles gratuitement par le public. À aucun moment, que ce soit nos actions de sensibilisation ou l'application Appel, à aucun moment c'est payant pour les victimes de violences. Justement, tout à l'heure, tu demandais quel est le rôle des pouvoirs publics. Bah, le rôle des pouvoirs publics, c'est de financer toute notre activité, en fait.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui ?
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui.
D'accord.
Et c'est ce qu'on travaille, c'est ce qu'on a construit petit à petit, et c'est cool.
C'est quoi tes enjeux aujourd'hui avec Résonante et avec Appel ?
Alors, déjà, pour être totalement honnête, quand je me suis lancée dans Appel, je ne pensais pas du tout que ça me coûterait autant d'argent de développer un tel outil. Je n'avais pas conscience de ça. Je ne savais pas que la tech, ça coûtait aussi cher.
Ouais.
Quand je dis que la tech, ça coûte cher, je parle des devs, enfin voilà, ça... Ça coûte cher.
Ouais. Donc... Il faut que ce soit compatible sur les différents, devices.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, on n'était pas sur iPhone, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas, on n'avait pas trouvé le chemin qui permettait aux personnes qui avaient un iPhone de bénéficier de l'application gratuitement.
Ouais.
Donc, on a préféré ne pas être présent plutôt que de proposer une application gratuite. On a trouvé le chemin, donc c'est cool. Mais nos enjeux aujourd'hui, c'est de poursuivre notre développement, parce que mine de rien, notre développement, il est international.
Ouais. Vous êtes donc, où aujourd'hui ?
Donc, on est dans 13... Alors, on peut utiliser Appel partout dans le monde. Hein, toutes les fonctionnalités
fonctionnent.
Mais quand je dis qu'on est présent dans 13 pays, c'est qu'on a des partenariats spécifiques avec...
des associations sur place, des relais.
Exactement, soit les pouvoirs publics, soit des ONG, soit des associations de référence dans ces différents pays. Donc on est aux États-Unis, au Canada, dans toute l'Europe, au Sénégal, en Tunisie. Et donc il faut qu'on poursuive ce développement, tout simplement parce que le service qu'on propose aux Françaises, qu'elles soient en France ou qu'elles soient à l'étranger, il faut que ce service soit aussi efficace. Et quitte à penser un outil pour les femmes victimes de violences, on sait que ce sont les mêmes problématiques, peu importe le pays dans lequel on se trouve. Donc en réalité, quitte à travailler, autant travailler pour toutes les personnes concernées. Donc c'est stabiliser l'équipe de dev, l'équipe autour d'Appel, et puis de mieux faire connaître cet outil.
Ouais.
Parce que la communication, c'est aussi un vrai sujet. Faire comprendre aux personnes ce qu'on fait, c'est quelque chose d'assez compliqué en réalité. Donc de poursuivre notre développement, de stabiliser l'équipe, et puis de mieux faire connaître Appel.
Et aujourd'hui d'ailleurs, tu aurais quelques chiffres à nous donner sur l'association ?
Quelques chiffres. Alors aujourd'hui, on est 6. On est 6 et je suis assez fière de ça en fait. même si ça paraît peu, en fait, on est 6 psychopathes qui travaillons pour 30. Ça, c'est l'équipe fixe, hein, l'équipe résonante, mais on s'appuie beaucoup. On a des partenaires sur lesquels on s'appuie. On a un vrai partenariat avec une start-up qui s'appelle Warimi, qui est basée sur Rennes, qui s'occupe de toute la partie techno d'alerte, qui est quand même une innovation technologique assez remarquable. Et puis, enfin voilà, on a des partenaires assez réguliers. Donc, au niveau du développement de l'application Appel, il y a une quinzaine de personnes en réalité. Je sais pas quel genre de chiffre tu veux. On est à plus de 50 000 téléchargements. Alors, c'est pas beaucoup quand on connaît la réalité des violences. Donc, mais c'est énorme pour une appli comme ça, malgré tout.
Et en termes de financement ?
En termes de financement, on est aux alentours. L'année dernière, on était sur un peu moins de 400K. Donc voilà, mais c'est un peu traître de partir là-dessus, parce que ce sont des financements qui peuvent vraiment varier. C'est-à-dire que ce sont des financements par projet. Dans Résonante, il y a différents projets et effectivement, la plupart des financements qu'on a, qu'on arrive à obtenir, et quand je parle de financement, c'est les concours qu'on remporte à droite, à gauche, les fondations qui nous soutiennent. Enfin voilà, ça c'est assez variable, quoi, mais on était aux alentours de 400K.
Et d'ailleurs, le plus beau concours que tu as gagné ?
Ben, ils sont tous beaux en réalité, parce que... non mais en réalité, ils sont tous beaux et... Ils ont tous été utiles, que ce soit même ceux que j'ai perdus d'ailleurs. Donc, le tout premier concours auquel j'ai participé, c'était Femmes du Digital West. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Julien Hervouette. Et je l'ai perdu, ce concours. J'ai pas été lauréate. Et donc, au final, c'est pas grave. Le plus beau, non, c'est pas le plus beau, le plus impressionnant, c'est celui de Las Vegas, du CES de Las Vegas, d'avoir l'Innovation Award catégorie Tech for a Better World. Excusez mon anglais pourri, ça n'a toujours pas changé.
On t'a comprise.
celui-là, il est vraiment incroyable. Il est incroyable parce que déjà, c'était culotté de notre part de participer à ce concours avec une appli et un bracelet connecté. Surtout quand tu sais que t'as l'hélicoptère du futur, enfin, t'as de la vraie deep tech, quoi, tu vois. Donc déjà, c'était culotté de notre part d'y aller en tant qu'assaut. Je crois qu'on est la seule assaut de l'histoire du CES, parce que c'est que des entreprises. Et puis de le remporter, c'est incroyable, surtout quand on parle pas anglais, tu vois, c'est magnifique. Et je pense qu'au niveau du message que ça porte aussi, de se dire que effectivement tu peux travailler sur un projet qui a du sens.
Ouais.
Et parce qu'au départ, il a quand même fallu convaincre aussi bien les gens de la tech qu'on pouvait faire de la tech sur la thématique des violences, mais il a aussi fallu convaincre toutes les personnes qui sont spécialisées sur la question des violences que la tech était fiable. Donc, on s'est quand même retrouvé à gérer un truc.
D'être un peu médiateur entre ces deux mondes.
C'est ça. Et je pense que ça a été quand même la consécration de se dire, bon, hey, si au CES de Las Vegas, on te dit que c'est cool, tu peux me croire.
Donc, c'est un bon passeport.
Exactement.
Diariata, on enregistre cet entretien quelques jours après la Journée internationale des droits des femmes, qui est souvent réduite à la Journée de la femme. On voit fleurir des prises de parole, des campagnes marketing sur le sujet. Il y a même certaines femmes qui ont dit « moi, j'ai plus envie de communiquer là-dessus parce que c'est trop ». Qu'est-ce que ça t'inspire, toi ?
Alors moi, je trouve que ça permet effectivement quand même de rappeler que des femmes existent. Donc si ça sert à ça, déjà, c'est pas mal.
Mais parce effectivement, que pour toi, on l'oublie encore trop souvent.
Ben, la question, c'est qu'en est-il des autres jours ? C'est surtout ça. Donc, de se dire qu'on a un jour, je pense que ça permet aussi de... Ben, juste de se poser la question. De se dire, ah, et les autres jours, alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, c'est cool, c'est très bien. Et puis, moi, j'ai pas l'habitude de cracher sur la soupe. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose de positif à prendre, même si c'est pas... même si on peut mieux faire en réalité, je trouve que c'est déjà pas mal et on va pas s'en contenter, mais on va rester sur le positif. Et en même temps, L'idée, c'est pas que les entreprises fassent du féminisme washing ou voilà. Et en réalité, j'ai l'impression que même si on voit bien que le 8 mars, tout le monde fait quelque chose, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent un peu plus à ce qu'ils font. Mais il y a encore du chemin, et c'est un peu le discours qu'on porte avec Flora Gebali, qui est la fondatrice de Coalition.
Oui, avec qui tu viens de publier une lettre ouverte.
C'est ça, tout à fait. Et effectivement, on se dit qu'en réalité, les entreprises ont un vrai rôle à jouer et qu'il faut aussi leur rappeler qu'ils ont ce rôle et qu'il y a des choses assez simples à faire au sein de l'entreprise.
Ouais, parce que tu donnais justement ces chiffres assez vertigineux de 225 000 femmes victimes de violences conjugales chaque année, et près de 15% de femmes sont victimes de violences sexuelles au cours de leur vie, mm-hmm. et que même si la plupart du temps c'est dans la sphère privée, mm-hmm. L'entreprise a un rôle à jouer.
Bah bien sûr, parce que ces femmes, elles sont dans la société, donc elles travaillent. Certaines, en tout cas, certaines d'entre elles travaillent. Et si, si elles sont victimes de violences dans leur foyer, le seul endroit où elles se sentent bien ou même où elles peuvent être protégées, c'est aussi à l'entreprise, dans l'entreprise. Le fait qu'une entreprise puisse proposer une mutation à un logement 1% patronal, c'est des choses qui facilitent vraiment la vie des femmes. Et en dehors de ça, les personnes qui sont dans les entreprises sont les personnes de la société civile. Donc, ce sont des gens qu'il faut sensibiliser aussi à ces sujets, tout simplement en tant que personne, en tant qu'adulte, mais aussi en tant que parent. Et on sait que les entreprises cherchent, doivent proposer des formations, des sensis sur différentes thématiques. Et c'est aussi leur responsabilité de le faire, en tout cas.
Et vous êtes appelée sur ce sujet-là, par les entreprises aussi?
Alors, là, comme je disais, une femme comme Flora Gebali,
ouais.
elle, son job, c'est d'échanger avec ces entreprises, de leur faire prendre conscience qu'elles ont des choses à faire sur ces sujets. Parce que c'est pas une question de mauvaise volonté, c'est qu'il y a certaines de ces entreprises qui ont envie de faire, mais qui ne savent juste pas par quelle boule prendre, ou qui ne savent pas comment s'y prendre pour pas heurter, les salariés. Enfin, elles ont juste, certaines d'entre elles ont besoin d'être convaincues qu'elles doivent agir, et d'autres ont juste besoin de savoir comment faire. Et je pense que c'est important de les accompagner aussi dans ces démarches, de faire du conseil et puis de proposer aussi des choses qui correspondent à la culture de l'entreprise. Et quand on leur propose, par exemple, une sensi par le biais d'un spectacle, c'est quand même plus cool que de regarder un film qui fait peur, tu vois. Donc voilà, moi j'ai envie de dire aussi, c'est aussi aux assos de réfléchir et de trouver d'autres modes d'action ou d'autres dispositifs à proposer que des choses classiques qui font peur. Et j'insiste vraiment là-dessus, parce que je sais que ça fait peur. C'est un sujet qui fait peur. Sauf que j'ai envie de dire que c'est un sujet désagréable comme les autres. Et qu'il faut le traiter.
Et pas fermer les yeux.
Ben, c'est ça.
Tu sais, Diariata, comme dans chaque 40 nuances de Nex, notre invité a toujours une question pour sa sista.
Ok.
Et donc, c'est le moment de la question de Julien.
Vous avez un message.
Alors, Diata, je crois que tu as réussi à cocher beaucoup des cases qui te semblaient inaccessibles. Le financement, les fonds trouvés auprès des fondations de Facebook... ce titre de chevalière de l'ordre du mérite, ce prix au CES, l'accès aux instances ministérielles. Aujourd'hui, tu disposes des moyens pour pouvoir défendre cette cause qui t'est chère. Jusqu'où tu vas aller? C'est quoi la prochaine étape pour toi? Quel est le prochain sujet? Est-ce que c'est à toi de le porter? Est-ce que tu veux le confier à d'autres? Quel est ton futur?
Waouh!
Vous avez 3 heures.
Avant de répondre à cette question, je vais commencer par remercier Julien. Tout simplement parce que, comme je le disais, je l'ai rencontré lors de ma participation à mon premier concours. C'est la première fois que je présentais appel à un jury. Et je me rappelle de mon pitch, j'ai pas été très bonne, quoi. Enfin, c'est pas que j'ai pas été bonne, c'est que je ne savais pas comment on faisait un pitch. J'y suis allée et j'ai fait comme d'habitude, j'ai parlé avec mon cœur. Et je me souviens d'ailleurs un truc qui m'a un peu choquée. Quand j'y pense, ça me fait rire. Je me dis, mais franchement, j'aurais pu quand même me préparer un peu. C'est qu'on m'a demandé mes slides. Et je n'avais pas de slides. Et au lieu de dire, je n'ai pas de slides, j'y ai pas pensé, j'ai dit, écoutez, c'est moi le slide. Et je me dis, mais c'est complètement... Enfin, quand j'y pense, je me dis, mais c'est...
C'est un super sens de la répartie.
Oui, mais c'est parce que je n'avais pas le choix. Et en même temps, pour de vrai, quand je dis c'est moi le slide, c'est en réalité, je
c'est
sais...
C'est en partie vrai.
Voilà, je vais vous raconter ce que je fais, je sais ce que je fais. Et bref, et il fallait... Une fois qu'on était sélectionnés, le jury avait la possibilité de choisir un poulain. Et Julien m'a choisi. Et j'ai trouvé, rien que ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh, il m'a choisi, c'est qu'il croit en mon projet. Et ça, c'est super important d'avoir des gens qui te rassurent sur le fait que tu as raison. Donc, ça a été le premier à me dire que j'avais raison et que mon projet tenait la route, quoi. Et ça, c'est important. Donc, pour revenir sur ça, donc je le remercie pour ça. Et depuis, concrètement, j'ai à peu près... je sais que je peux compter sur lui dès que j'ai la moindre question. Et c'est surtout mon coach, quoi. C'est-à-dire que dès que j'ai un problème, et je crois que ça arrive généralement en fin d'année, je vais le voir, je vais dire « Julien, j'ai un problème. » voilà ce que j'ai, voilà ce que je pense faire. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Et généralement, il vise juste... Et ça, c'est vraiment précieux d'avoir un Julien dans sa vie, dans sa vie d'entrepreneuse en tout cas. Où je vais, je n'en sais rien. C'est-à-dire que mine de rien, c'est un peu à l'image de tout mon parcours, c'est que je n'ai pas de plan. Je n'ai pas de plan. Je fais plein de choses différentes, mais qui ont un lien avec la question des violences. Et arrive un moment où je me rends compte qu'il y a une autre porte à ouvrir. Mais j'y peux rien, c'est pas moi qui veux ça, c'est la thématique qui veut ça. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses qui ne vont pas que je me retrouve devant des portes et je me dis, vu que il y a un mur là, la porte est même fermée, il faut trouver une solution. Et c'est un peu, c'est le fonctionnement de Résonante. C'est-à-dire qu'on ne propose pas, et puis après on cherche s'il y avait un besoin, c'est qu'on se retrouve face à des besoins et on pense des solutions. Donc je n'en sais rien, je ne sais pas où on va, mais on verra bien. Là, on travaille sur un projet je ne sais pas où il nous embarque, mais en tout cas, on travaille sur un objet d'alerte totalement autonome, un objet connecté, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que appel c'est bien, mais il faut quand même avoir un téléphone. Et quand tu n'as pas de téléphone, tu fais comment ? Et en réalité, il y a beaucoup de femmes ou beaucoup de victimes de violences
qui
n'ont pas de téléphone. Et ça, je m'en étais pas rendu compte avant. Je ne le savais pas. Et c'est bien parce qu'on est confronté à cette problématique qu'on pense une solution et on verra bien si on trouve une réponse à cette problématique. En réalité, moi, dès que je pourrais mettre tout ça entre les mains de quelqu'un d'autre, je le ferai. Parce qu'à la base, comme on le dit, moi, je suis artiste engagée sur ces sujets, ok. Et moi, si je pouvais retourner écrire des chansons et faire des spectacles, ça serait cool. Et en même temps, je le porte parce que, comme je le disais, je le vis un peu comme une responsabilité. Et aujourd'hui, j'y trouve du plaisir. Mais au début, c'était vraiment, il y a plein de choses que j'ai faites qui ont été très compliquées pour moi. Mais je les ai faites parce que je n'avais pas le choix.
Ouais.
Parce que je me disais, de toute façon, c'est soit je le fais, soit a priori personne ne va le faire. Et ce que j'ai aussi réalisé, c'est que j'ai aussi une façon de faire qui est différente. Et je pense que c'est aussi important de ne pas avoir été formaté ou de ne pas avoir été formé à l'entrepreneuriat parce que t'es obligé de faire à ta sauce. Et finalement, c'est quand même pas mal de faire à sa sauce. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ça me plaît, parce que je me sens libre de mener ces projets qui me ressemblent, et pas comme je pensais qu'ils devaient être faits, ou comme on me disait de faire. Et ça, ça a été super dur au début. C'est-à-dire que je rencontrais que des personnes qui me disaient « c'est pas comme ça qu'on fait ». Et moi, j'avais pas besoin de ça, déjà. C'était déjà... Enfin, voilà. Déjà, j'avais envie de dire, bon, je le fais déjà, donc laisse-moi tranquille. Mais et ça, c'est super dur. Hein, parce que t'as pas trop confiance. Tu dois déjà te motiver à faire un truc. Et t'as plein de personnes qui te disent, ben, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on fait un pitch. C'est comme ça qu'on...
Et tous ces codes, en fait.
Bah ouais, tous ces codes dans lesquels je me retrouvais pas, qui sont très compliqués quand t'as pas été formé. Et puis, en vrai, tu rencontres aussi plein de porteurs de projets qui sont épuisants. Enfin, donc t'as ça. Et puis après, t'as à côté de ça, t'as plein de personnes qui voient ton projet, qui voient le potentiel de ton projet, qui ont été formés, eux, pour mener des projets et qui vont tenter. Ben, soit de te le reprendre, soit j'ai découvert la concurrence aussi, tu vois. Ça, c'est un truc que je ne connaissais pas. Et ça, c'est quand même assez rude, je trouve.
Ouais.
Donc voilà, donc j'ai fait une réponse un peu à rallonge, mais la question était passionnante. Je ne sais pas où je vais, mais tant qu'il y aura besoin, je pense que j'irai, tout simplement parce que...
C'est quelque chose que tu ressens profondément.
Non, je le ressens pas, c'est-à-dire que je le vis.
Tu le vis, oui.
Ben, quand tu connais une situation, en gros, j'en sais trop. J'en sais trop pour ne rien faire. Et je pense que je dormirais mal si je faisais semblant de pas savoir. Donc c'est ce qui me pousse et c'est ce qui m'anime. Et voilà, donc quand je dis je n'ai pas le choix, on me met pas le couteau sous la gorge. Et j'utilise cette expression qui est super violente, mais c'est pas comme ça que je le vis. Mais en tout cas, je le ressens comme ça. J'en sais trop pour ne rien faire, mais dès que j'ai l'occasion de transmettre, de remettre ça entre les mains d'autres personnes, je le ferai avec grand plaisir.
J'ai une dernière question avant qu'on passe à la rubrique suivante. On a un autre podcast qui s'appelle Philosophie, où on donne la parole aux enfants et aux ados sur leur rapport au digital. Et on a récemment interviewé un frère et une sœur. Alia, elle a 13 ans, elle a été victime de harcèlement scolaire, elle est en train de monter une app pour dénoncer ce harcèlement. Et Abdallah, son frère, l'aide. Et Abdallah, lui, il voit les réseaux sociaux comme une porte ouverte sur le monde. Et il pense que la parole des enfants vaut celle des adultes.
Il a raison.
Ouais, il a grave raison. Et du coup, Abdallah, quand je lui ai dit qu'on te recevait aujourd'hui, je lui ai dit, est-ce que toi, tu aurais une question à lui poser? Et il m'a dit oui. Est-ce que tu pourrais lui demander quand elle pense qu'elle aura réussi sa mission?
Oh, quelle question! C'est une vraie question d'enfant, j'adore. Parce que... Alors, c'est très compliqué comme question. En réalité, moi, je pense que j'ai déjà réussi ma mission, tu vois. Parce que j'ai osé proposer quelque chose qui n'existait pas et que c'est utilisé tous les jours. Donc pour moi, j'ai déjà réussi ma mission. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui découvrent... Enfin, il y a d'un côté, avec toutes les actions de Sensi, des personnes qui parlent pour la première fois des violences qu'elles subissent. Et ça, c'est déjà trop bien. Parce qu'on me demande souvent, mais comment tu fais pour travailler sur cette thématique? Ça doit être dur. Mais moi, quand j'entends un témoignage, je me dis, ah, ça y est, tu l'as dit, t'en as parlé, t'es pas toute seule ou t'es pas tout seul. Et ça, je trouve que c'est incroyable à vivre aussi. Et puis de l'autre côté, j'ai mon appli, j'ai cette appli qui est utilisée tous les jours, avec des alertes qui sont données tous les jours, des appels vers les secours qui sont faits tous les jours, des recherches d'informations. Enfin, donc, j'ai déjà réussi ma mission très chère. Alors, toute première fois, ça va être drôle.
On va parler de tes premières fois, comme tu l'auras compris avec ce jingle. Ton premier gros dilemme avec Résonante.
Mon premier gros dilemme, ben justement, c'était en 2018. En fin 2018, je ne savais pas du tout comment j'allais poursuivre appel. Parce que entre 2015 et 2018, on a beaucoup fait appel à du mécénat de compétences. Et là, je sentais que ça n'avançait pas assez vite, parce que le mécénat de compétences, c'est super précieux. Mais tu dépends quand même du temps disponible de ces personnes qui ont un job. Donc voilà, et ça n'allait pas assez vite. Et donc, je me suis dit, mais là, je dois passer à un niveau supérieur avec appel. Je me suis retrouvée à me dire, j'ai besoin de beaucoup d'argent parce qu'il me faut que je puisse embaucher une équipe et ne plus être dépendante uniquement du mécénat de compétences. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que je transforme Résonante en entreprise? Tout simplement parce que j'ai rencontré tellement d'investisseurs qui me disaient, nous, on te suit, on est prêts. Enfin, voilà. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire ça, mais j'ai besoin d'argent. Et justement, je suis allée voir Julien. Je lui ai dit, mais Julien, comment je fais? Bref. Et finalement, j'ai pas eu à faire ce choix. J'ai pu poursuivre sur un modèle associatif, tout simplement parce que 2019, c'est l'année des prix.
Ouais.
On a eu en janvier le CES, on a eu la Fondation La France S'Engage, on a eu le soutien de la Fondation des Femmes, et en fait, l'argent est arrivé sans que je sois obligée de passer en entreprise. Et je sais que le chemin aurait été plus facile.
Ouais.
Parce que je sais que je trouve des investisseurs en claquant des doigts. C'est terrible de dire ça, mais je le sais. Mais je n'avais pas envie. Donc, ça a été mon premier gros dilemme.
Et la première fois que tu as entendu un de tes enfants parler de ce que tu faisais?
Alors, la première fois que j'ai entendu, c'était ma fille qui tentait d'expliquer ce que je faisais à sa copine. Et elle lui dit, tu sais ce que c'est les violences faites aux femmes? Et donc sa copine dit oui. Elle fait, c'est ma maman qui fait ça. J'ai fait, non, pas tout à fait. Donc je lui ai expliqué, et c'est vrai que là, pour le coup, mes enfants sont plus grands, savent exactement ce que je fais. J'ai mon aîné qui est déjà venu voir un spectacle, qui a compris appel, qui m'entend parler d'appel tout le temps. Et c'est cool parce que je vois qu'on a les enfants qu'on mérite aussi. Et elle est déjà super engagée. Les deux, mes deux petits sont un peu, voilà,
petits ont
6 et 7 ans, donc ils sont un peu jeunes. Mais en tout cas, celle qui a 10 ans. Je pense qu'elle sera engagée sur des sujets. Alors, je ne sais pas lesquels, mais voilà. Elle est assez fière de sa maman et c'est trop bien.
Elle peut.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
Dis-moi, elle était comment, Diriata, petite?
Alors, j'étais comment? J'étais... J'étais rêveuse, vraiment. Et alors, il y a plein de souvenirs que je n'ai pas. Tu vois, je pense que c'est pas pour rien. Mais les souvenirs que j'ai, c'est j'ai toujours voulu me rendre utile. J'ai toujours été au service des autres. Et tu vois, un truc qui est assez fou que je réalise maintenant, c'est que je me dirigeais très facilement et plus facilement vers toutes les personnes qui étaient isolées ou qui étaient différentes, tu vois. Et ça, je me dis, c'était, enfin voilà, déjà petite,
il y avait ce signe,
il y avait ça, ouais, il y avait ce signe là j'aimais pas voir quelqu'un seul. Et donc concrètement, je faisais des bandes avec toutes les personnes qui étaient seules, tu vois, parce que je trouvais ça tellement nul. Et j'avais une copine en fauteuil roulant, enfin tu vois. Et je me dis, en réalité, j'ai toujours aimé être au service des gens et j'ai cette sensation-là. J'ai grandi avec mes frères et sœurs. C'était dans une famille nombreuse, donc ça t'oblige aussi à vivre avec du monde.
Oui.
Donc ça t'oblige à t'adapter, à pas trop prendre de place. Parce que tu sais que tu peux pas en prendre trop, de toute façon. Et puis voilà, c'est pas mal déjà.
C'est pas mal.
Ouais.
Et tu t'es mise à écrire ?
Ouais, je me suis mise à écrire à l'âge de 11 ans.
Ouais.
Mon premier texte, c'était sur les acariens, parce que j'étais allergique.
Ah.
Et que ça me saoulait. Et donc, j'ai écrit un texte, les acariens, acariâtres, enfin bref, un truc un peu comme ça, débile. Mais ouais, j'ai commencé à écrire à 11 ans et j'ai commencé à les mettre en chanson à 15 ans.
Ouais.
Quand je suis revenue du Sénégal et j'avais été mariée de force là-bas. Et je pense que j'ai eu besoin de m'exprimer, en fait. Parce que c'est vraiment, et c'est complètement fou, parce que vraiment, moi, je me suis analysée, enfin, comme beaucoup de personnes, mais c'est vraiment avec le recul que je vois, que je comprends mieux ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à 15 ans, c'était à mon retour du Sénégal qu'il y a eu cette envie de m'exprimer, quoi. Mais enfin, pas de m'exprimer, mais d'assumer ce que j'écrivais.
Et tu nous as parlé de Julien tout à l'heure.
Ouais.
Est-ce qu'il y a d'autres gens que tu as rencontrés et qui ont eu un impact dans ta vie et qui font que tu es la femme que tu es devenue aujourd'hui ?
Bien sûr, mais il y a tellement de gens. Il y a tellement de gens. En fait, moi, j'ai l'impression que toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'était enfin, avec le recul, je me dis, c'était tellement logique que je rencontre toutes ces personnes. Enfin, tu vois, c'est bizarre, mais je te donne une anecdote. Donc, quand j'avais 15 ans, je découvre l'album d'une artiste qui s'appelle Bams. Son album, c'était Vivre ou Mourir. Et vraiment, c'est cette femme, cette artiste. Et c'est pas pour rien aussi que moi aussi, je suis devenue cette artiste qui est convaincue d'avoir une responsabilité avec son public, tu vois. C'est que j'ai écouté ses paroles, les paroles de son album, du début à la fin, j'ai l'impression qu'elle me parlait. Et quand je dis sa chanson Non m'a fait dire non à tout ce que je voulais pas, c'est vrai. Je me suis construite avec cet artiste. Et vraiment, elle m'a donné le courage de dire non et de me barrer, de refuser les choses. Et donc, bref, je me retrouve en région parisienne et tout. Je suis avec une de mes frangines, je suis dans le métro. Je marche. Non, je suis dans le RER. Le RER ne part pas. On se dit, bon, il y en a marre, on va prendre le métro. Et sur le chemin, il y a une jeune femme qui distribue des flyers. Et elle vient vers nous, elle dit, je suis sûre que vous allez kiffer ce que je fais, je m'appelle Bams. Et je fais, non mais juste, attends. Et donc là, je bloque et je lui sors son couplet, tu vois. Je lui dis, mais tu te rends même pas compte de l'impact que tu as eu dans ma vie. Et cette femme-là, elle est venue vers nous. On était dans le métro à Paris. Il y a des millions de personnes qui passent par là. Tu te dis, c'est juste improbable. Et ça, c'est une rencontre, mais qui change tout. Parce que bref, elle nous fait écouter son deuxième album. Elle me présente un premier, son producteur, qui nous fait sortir un 3 titres. Enfin, tu vois, une histoire incroyable et extraordinaire. Et souvent, je dis, j'ai une vie de mytho. Parce que, tu vois, c'est le genre d'anecdote que tu racontes et tu te dis, c'est complètement fou, quoi.
Ouais.
Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sans trop savoir. Alors, il y a celles, quand je les ai rencontrées, je me suis dit, c'est juste normal qu'on se rencontre parce qu'il y avait déjà une connexion qui était, enfin voilà, qui était assez dingue. Et puis après, je me dis, on rencontre. Enfin, les personnes qu'on rencontre, on les rencontre jamais par hasard. C'est aussi parce que on les cherche ou si on se retrouve au même endroit, c'est qu'on y fait peut-être les mêmes choses. Enfin, donc voilà. Si j'avais une personne à citer, ça serait Bams. Et puis après, je vais pas rentrer trop dans ma vie perso, mais mon mari, tout simplement. Enfin, mon mec, quoi. Je suis quand même contente de l'avoir rencontré, tu vois.
Bah ouais, j'imagine.
C'est important.
Et puis ça c'est un vrai soutien aussi dans tous les projets. Ouais, que
bien
tu
sûr.
Mènes.
Et puis de toute façon, tu ne peux pas faire tout ce que je fais sans allier.
Oui.
Et surtout quand tu as 3 enfants.
Oui.
Donc
d'ailleurs, comment tu fais pour te ressourcer et te prendre de l'énergie?
J'écoute Booba. Non mais je l'assume. Non mais je suis désolée, mais j'écoute non mais vraiment, ça passe par la musique, beaucoup.
Ouais.
Et vraiment.
Tu composes toujours ?
Ouais, j'écris toujours. Enfin, j'essaye. Enfin, voilà, je crée. Après, je partage pas toujours.
Ouais.
Mais moi, c'est une façon de me faire du bien.
Bien sûr.
Et vraiment, l'énergie que j'ai, elle vient des. y a plein de personnes qui m'inspirent. Et tu vois, que ça soit les personnes qui réussissent dans les domaines dans lesquels elles se lancent, mais moi, ça me donne une énergie folle. Et vraiment, je respecte le travail, tu vois. Je respecte la capacité de travail des personnes et tout. Et je te jure qu'il y a plein de personnes qui ne savent même pas pourquoi elles m'inspirent, mais moi, ça me suffit de... ce qu'elles représentent pour moi ou ce qu'elles font dans leur domaine ou enfin voilà qui me parle et ça me motive et ça m'inspire et voilà et puis dès que je peux bah je vais en thalasso quand même parce oui. que ça fait du bien
puis t'as tout ça à portée de chez toi en plus donc bah, c'est ça simple.
Bah ouais
ce serait dommage s'en priver
c'est ça et puis je pense aussi que ce qui est important c'est d'essayer quand même si c'est dur c'est d'essayer de faire des coupures
ouais.
et puis de enfin voilà moi j'ai comme je disais j'ai trois enfants quoi enfin
voilà.
J'ai trois enfants de 6, 7 et 10 ans et ils sont dans un monde tu vois ils sont dans un monde parallèle quand même les enfants et donc ça te permet aussi de te ressourcer et puis de savoir pourquoi tu bosses et voilà donc toutes ces choses là
participent à la ressource
c'est ça. Waouh, t'as j'ai parlé de Booba et de Thalasso c'est n'importe quoi.
C'est quoi la plus grosse claque que tu as prise?
Alors justement, la plus grosse claque que j'ai prise, c'est de découvrir que dans le monde associatif, et même sur la thématique des violences, ben, y a des choses pas très sympathiques, quoi. Il y a aussi de la concurrence, il y a aussi des personnes qui essayent d'invisibiliser ton travail parce que c'est comme dans tous les domaines. Tu peux déranger quand tu innoves ou quand tu fais les choses différemment. Et ça a été une claque très dure à vivre parce que je le savais pas. J'étais un peu dans mon monde de bisounours à me dire « Ah, tout le monde est engagé, on lutte tous et toutes pour le bien des personnes. » Et tu te rends compte que ce n'est pas tout le temps le cas. Et ça, c'est une vraie claque.
Et comment tu réagis face à ça, du coup?
J'ai confiance. En réalité, quand t'es un usurpateur, ça se sait à un moment donné, ça se voit. Donc, je laisse le temps faire. Et voilà, et je pense que...
Et tu te concentres, toi, sur tes projets.
C'est ça, c'est que ça demande déjà tellement d'énergie. Et j'ai pas le temps de gérer tout ça. Et j'essaye de... J'essaye en tout cas de... Non, c'est pas ça, c'est en restant concentré sur ses objectifs, on se dit à un moment donné, de toute façon, t'es démasqué. Donc le temps fait les choses. Et c'est ce qui se passe, donc j'ai confiance.
On arrive presque à la fin. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui à force t'agace?
Alors, c'est pas trop une question, mais non, moi, il y a un truc qui m'énerve vraiment, que je dénonce à ce micro, c'est faites l'effort de prononcer correctement mon prénom et mon nom de famille, parce que je le vis vraiment comme un manque de respect.
Ouais.
Je me dis, les prénoms russes, c'est compliqué, mais généralement, vous faites l'effort, donc lisez les lettres, toutes les lettres et toutes les syllabes, et ça va bien se passer, quoi. Parce que c'est aussi une façon de te faire comprendre ou de te faire savoir que ton prénom n'est pas habituel et qu'on n'a pas l'habitude de prononcer ce genre de prénom. Et ça commence sérieusement à m'agacer.
Je crois que le message est passé. Et la question qu'on te pose jamais, c'est tant mieux.
Est-ce que je peux compléter la question d'avant?
Oui, t'as le droit.
Alors, toutes les autres questions qui m'agacent vraiment, c'est qu'on me demande moi de témoigner, de raconter mon histoire. Et ça... J'ai envie de dire, on s'en fiche. Je fais tellement de choses qu'il y a assez de choses à raconter, il y a assez de choses à dire. Donc, en gros, arrêtez d'être curieux, parce que vous n'êtes pas aussi curieux avec tout le monde. Donc voilà. Donc, je complète.
Très bien.
Et la question qu'on ne me pose jamais...
C'est tant mieux.
C'est tant mieux. Ah, c'est tant mieux. La question... En gros, un truc que j'aimerais pas dire. Tu sais, il y a pas grand-chose. Hein, Non, mais général. Enfin, tu vois,
Et alors.
Enfin, voilà.
Et alors, la question qu'on ne te pose jamais, mais que t'aimerais vraiment qu'on te pose et que du coup on va te poser.
Ah non, mais attends, c'est compliqué comme question. C'est super compliqué. Attends, je cherche une question. Franchement, là, tu me prends de court. Là, je réfléchis. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'a posé quasiment toutes les questions qui existent. Non, mais peut-être pas, mais...
La prochaine fois, tu pourras dire celle-ci, du coup.
Non, c'est pas ça. C'est que je passe mon temps à échanger avec des gens.
Ouais.
Enfin, tu vois, avec les jeunes, avec mes collègues, avec ma famille, avec... Enfin, tu vois, et j'ai vraiment l'impression... Enfin, là, tout de suite, je n'ai aucune question à te...
C'est pas grave.
Te soumettre. Je suis désolée.
C'est pas grave.
Parce que, enfin, il n'y a rien qui me vient.
Et on arrive là vraiment à la fin de cette émission. Si toi, tu avais dû choisir une sista, tu aurais choisi qui ? Je sais que c'est compliqué.
Ah ouais, c'est super compliqué parce que y a beaucoup de femmes qui font des choses extraordinaires et qui ne sont pas visibles ou pas assez. Je pense à deux femmes, je peux les citer ?
Oui.
Je pense à Mélanie Perron, qui a créé une entreprise qui s'appelle Bliss. Elle fait de la réalité virtuelle pour les personnes malades.
Ouais.
Et en gros, avec sa solution Bliss, elle arrive à réduire la douleur des patients sans qu'on leur injecte des doses, des calmants. Quoi. Et je trouve ça extraordinaire.
Ouais.
Il y a même des camions de pompiers qui utilisent... son masque, et je trouve ça top. Et puis, je pense à Atina Marmora, qui est la fondatrice d'une asso qui s'appelle Revel. Elle propose des parcours à des jeunes femmes issues des quartiers populaires pour leur permettre de rêver plus loin et de se projeter dans différentes carrières professionnelles. Parce qu'effectivement, on sait qu'on a besoin d'être inspiré. On a besoin de voir autour de soi différents métiers, différentes personnes qui nous ressemblent, qui font des choses extraordinaires. Et tout le monde n'a pas ces exemples ou ces représentations autour de soi. Et leur permettre de rêver plus loin et de permettre des déclics à toutes ces femmes, je trouve ça extraordinaire. Donc je pense à Mélanie Perron et à Atina Marmora.
Merci mille fois pour cet échange.
Merci à toi.
Et je te dis à très bientôt.
Merci beaucoup.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jamin.